Non, mais ça, je pense que le problème, en plus, tu en sais quelque chose, parce que tu. C'est une chose qui est très particulière, on va faire un live tous les deux, c'est que quand on est en état d'excitation maniaque, on ne se souvient pas enfin, après un état maniaque, on ne se souvient pas de ce qui s'est passé durant la phase maniaque. C'est des bribes. C'est des bribes. Et ça peut être expliqué aussi par la consommation d'alcool qui peut amener à oublier encore plus et puis à désinhiber aussi.
Alors, je ne sais pas ce qu'est la psychanalyse, autrement qu'au travers des livres. Et puis, je n'en ferai pas ce soir la promotion. Donc, j'ai écrit dans ce livre, Vivre avec des hauts et des bas, qu'on avait vraiment des grands blagues de mémoire après. Mais ce que je peux affirmer, c'est que si on travaille, on comble ces trous de mémoire quasiment totalement. Et en ce moment, je suis en hypermnésie et il me revient des choses que j'avais oubliées, que je croyais avoir oubliées totalement. Mais je crois que le cerveau est comme les ordinateurs, pas tout à fait comparable. Mais vous croyez tout effacer et ça va se concentrer dans un coin du Dix. Or, les chefs d'entreprise qui connaissent ça changent de disque dur tous les ans pour éviter le fisc. C'est bien connu.
Bien. D'autres questions ?
Oui, bonjour. On m'entend là, oui. Concernant la comorbidité, vous n'avez pas mentionné les problèmes liés à la schizophrénie, et ni aux états limites borderline. Est-ce que vous avez fait exprès ou...
Alors.
Ou est-ce qu'il n'y a pas de lien entre ça et les problèmes ?
Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès dans la mesure où le trouble schizoaffectif est une maladie à part entière, hein, c'est-à-dire que c'est une entité, et je dirais qu'on n'est ni dans le trouble bipolaire, ni dans la schizophrénie, c'est une schizophrénie qui évolue de manière périodique, avec des intervalles libres de plus ou moins bonne qualité, avec un bien meilleur pronostic que la schizophrénie, avec une meilleure réponse thérapeutique. Je ne l'ai pas évoqué parce que je l'avais évoqué au début. De même que les troubles borderline, qui sont des troubles de la personnalité, volontairement, je ne l'ai pas évoqué parce que la prochaine réunion va être consacrée aux troubles de la personnalité. Et si j'évoquais le trouble borderline ce soir, j'aurais plus grand-chose à dire la prochaine fois. Néanmoins, puisqu'on me pose la question, c'est vrai qu'il y a certains points, des similitudes entre le trouble borderline et puis les troubles bipolaires. Et je dirais que la frontière parfois n'est pas facile, parce qu'on retrouve dans le trouble borderline bien sûr cette série d'événements pénibles de vie durant l'enfance, on retrouve des comportements parfois impulsifs avec une addiction, avec des conduites addictives, que ce soit à des toxiques ou à de l'alcool. Et puis, ce qui est important, c'est cette fluctuation d'humeur qu'on va parler de dysphorie plutôt que de dépression ou de manie. C'est-à-dire que la fluctuation d'humeur, elle est permanente, elle n'est pas stable. Au cours d'une phase dépressive, vous êtes au fond du trou, vous êtes déprimé, en permanence déprimé, et celui qui est déprimé, il est déprimé parfois avec une petite amélioration en fin de soirée. Mais dans les troubles borderline, vous avez des oscillations très rapides, on ne peut pas parler de cycle rapide, mais c'est une humeur très très changeante et qui est associée à un état de mal-être, qui est associée à un état d'anxiété et qui permet de faire la différence entre la fluctuation d'humeur qu'on peut observer chez un hypomane ou un maniaque, qui peut passer des rires aux pleurs, mais l'humeur est quand même euphorique, je dirais, presque en permanence.
Bonsoir docteur, une question hors sujet. Est-ce que le sevrage du Loxapac, pris préalablement en faible quantité mais sur longue période, pendant 6 mois, peut provoquer une rechute dépressive ?
Alors, là vous me posez une question un petit peu embarrassante, c'est-à-dire que le Loxapac est un neuroleptique, à la différence du Zyprexa, du Risperdal, du Solian, qui sont des antipsychotiques. Et le Loxapac est un médicament qui est très efficace, qui est très antimaniaque, qui est très antidélirant, qui va être utilisé donc dans des formes, je parle du Clopixel, hein, c'est le Clopixel hein, donc qui va être l'Oxapac. Alors non, l'Oxapac il est je dirais qu'il est modérément antidélirant, il est moins puissant que le Clopixel. Mais l'Oxapac bon, a des effets neurologiques et il a un petit effet dépressogène. C'est-à-dire que ce n'est pas l'arrêt du Loxapac qui peut générer la dépression, c'est plus le Loxapac en lui-même qui peut favoriser l'apparition d'un état dépressif par ce côté un peu abrasif, phénomène qu'on observe avec d'autres médicaments comme le Clopixol, comme l'Aldol, où on a le sentiment que ces neuroleptiques, je dirais, favorisent le passage de l'état d'excitation à l'état de dépression. En revanche, on n'a pas ce phénomène avec des produits de nouvelle génération comme le Zyprexa, comme le Risperdal, comme le Solion, et bientôt comme l'Aripiprazole, qui est un nouveau médicament.
Bonsoir. En cas de tendance obsessionnelle légère, et on dira maîtrisable, est-ce qu'on a intérêt à essayer de... justement de gérer l'obsession, c'est-à-dire envie de ranger, on ne range pas, on s'en fout, ou est-ce qu'on a intérêt à se laisser aller à l'obsession, c'est-à-dire ranger?
Je crois que dans ces cas-là, il y a des obsessionnels qui sont très désordonnés d'abord. Hein. Il faut savoir que l'obsessionnel n'est pas quelqu'un qui vit dans l'ordre. Vous avez des obsessionnels qui sont désordonnés. Bon. Ce qui est important, c'est de voir ce qui vous correspond le mieux. Il y a des obsessionnels désordonnés qui se repèrent très bien dans leur désordre. Ils ont des dossiers partout, ils savent où se trouve, ça fait rire quelqu'un, et ils savent où se trouve donc le dossier en question. Et puis il y a celui qui a besoin que son bureau soit bien rangé parce que ça va générer une anxiété.
Hein.
Quand
on,
ça c'est... Non, je crois qu'il faut suivre un petit peu ces envies parce que vous allez, sans ça, vous allez à l'encontre et puis vous risquez de générer un état d'anxiété.
C'était pas pour moi, hein, docteur.
Non, non.
Non, merci.
Oui, docteur, une question. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre que la prise des médicaments et tout le rituel de la prise des médicaments
Par ces prises de médicaments, à la fois une ritualisation et puis une crainte, c'est-à-dire de rendre dépendant le sujet qui sera inquiet par la non-prise du médicament. Mais surtout cette notion de ritualisation, c'est-à-dire d'organiser la vie autour des médicaments, sachant que vous devez prendre vos médicaments matin, midi et soir. Alors c'est sûr que l'obsessionnel... Il va vivre ça différemment parce qu'il va nous demander les horaires de prise. Et ensuite, il va nous demander si c'est à quel moment du repas, avant, au milieu, à la fin, après le café. Donc là, il y a quelque chose de très particulier. Donc personnellement, moi, je pense que ceux qui ritualisent la prise des médicaments, déjà à la base, ont un soubassement obsessionnel. Et je n'ai pas rencontré de patients qui devenaient obsessionnels de par la prise des médicaments.
Juste, docteur, je voulais faire un petit peu un point sur l'Oxapac, puisqu'on vient de l'évoquer. Personnellement, j'en ai utilisé, je trouve que c'est un excellent médicament, qui a la propriété, quand il est pris au moment du coucher à 25 mg, effectivement, de supprimer l'anxiété qui est propre à la maniaco-dépression lors du coucher, mais qui, à ce dosage, permet de faire quelques petites choses et d'avoir envie de partir du bon pied. Après, si vous passez à un dosage supérieur, vous pouvez effectivement, sauf quand vous êtes dans une crise maniaque, arriver à un syndrome de dépression.
problème, c'est une question de dosage. C'est sûr que 25 mg, ce n'est pas une dose très, très élevée.
Oui, et, justement.
Et dans les posologies à 200 mg, 300 mg, là, ça a d'autres effets. Alors, il est certain qu'à petite dose, ça a un effet protecteur, ça peut induire aussi le sommeil, ça calme une anxiété. Cela dit, même à 25 mg, j'ai un certain nombre de patients qui supportent mal lorsqu'ils vont bien ou lorsqu'ils commencent à se déprimer, ils supportent mal ce traitement.
Sachant que les gens qui ont plutôt une tendance à la maniaco, enfin au côté maniaque de la maniaco-dépression, ça risque effectivement, s'il y a association avec un antidépresseur, de les porter vers une crise maniaque. Pour la simple et bonne raison qu'il vaut mieux à ce moment-là qu'ils prennent un antidépresseur comme la Timil la veille, qui va avoir tendance à les calmer.
Oui, en sachant aussi qu'il ne faut pas oublier le rôle des thymorégulateurs, et je pense que...
Non, mais bien entendu, ça, c'est pas indispensable.
Ça, c'est indispensable.
Mais si vous voulez, on n'a pas réglé le problème. Hein. Je suis retombée en crise au bout de 2 ans, on a beau mettre du lithium, je vais beaucoup mieux quand même, je suis retombée beaucoup moins bas, et puis maintenant, on veut m'en rajouter une couche avec le Zyprexa. Est-ce que le médecin, il recule de 30, sur 30 ans du Zyprexa, ce qu'il va faire? Je ne pense pas.
On n'a pas de recul de 30 ans, on a une recul de une dizaine d'années avec le Zyprexa. Vous allez dire que c'est peu. Je pense que...
On avait un recul avec le lithium, mais on a prouvé que ça n'empêchait pas les rechutes.
Ça n'empêche pas les rechutes, ça empêche les rechutes chez certains sujets, c'est-à-dire que...
On tombe moins bas.
L'observation qu'on peut avoir, c'est 30% d'amélioration, 30% de guérison. Quand je parle de guérison, c'est qu'il y a une disparition complète des épisodes, et puis 40% de résistance. Bon, sachant aussi que la résistance, elle peut être en rapport avec une mauvaise observance ou avec d'autres phénomènes, un dosage insuffisant, par exemple. Mais il est certain que dans ces cas-là, je crois qu'il faut... Bon, il y a les médicaments d'un côté, ça c'est évident, mais il y a aussi toute la thérapie qui doit être associée, en sachant que cette thérapie, c'est pas uniquement des thérapies, des psychothérapies, il y a toutes les mesures psychoéducatives, les thérapies comportementales, et dans certains cas, des thérapies plus poussées, comme la psychanalyse, qui peuvent tout à fait être indiquées. Sauf durant les accès. Sauf durant les accès, bien sûr.
S'il vous plaît, je voudrais savoir, pour quelqu'un qui est maniaco-dépressif, mais qui a surtout des phases de dépression sévère, dans un espace libre, est-ce qu'on peut aller en Guadeloupe sans risquer de réengendrer une dépression, ou est-ce que c'est contre-indiqué?
Il n'y a pas de contre-indication formelle. Le problème, c'est le décalage horaire, hein, qui peut être un facteur de stress, et qui peut, chez certains sujets, favoriser des récidives. Bon, c'est décrit chez certaines personnes. Cela dit, on part pas dans le fin fond de l'Amazonie, donc dans le pire des cas, s'il y a rechute, il y a toujours la possibilité de réajuster le traitement, de revoir un médecin, d'être hospitalisé, qu'il y a un rapatriement, il n'y a pas de risque majeur.
Très bien, merci.
Oui, bonsoir docteur. J'aimerais savoir si l'on peut être bipolaire en phase stable et avoir la fibromyalgie ou le syndrome de la fatigue chronique.
Alors, oui, en sachant que ce sont des pathologies à part, c'est-à-dire que bon, le syndrome de fatigue chronique est une pathologie particulière. C'est vrai qu'il y a des liens, avec la dépression, puisque l'un des traitements repose sur les antidépresseurs. La fibromyalgie, c'est une autre pathologie qui se caractérise par des points douloureux multiples. Hein. Vous avez des douleurs qui sont multiples sur les mains, mais c'est une pathologie qu'on voit surtout en rhumatologie, surtout les rhumatologues qui traitent. Et qui traitent aussi avec des antidépresseurs. Bon. Mais il n'y a pas de lien direct entre fibromyalgie fatigue chronique et puis troubles maniaco-dépressifs. On peut avoir une fibromyalgie et ce type de trouble, enfin la fatigue chronique, au cours d'un intervalle dit, bien sûr.
Oui, il arrive. quittez pas.
Bonsoir docteur, j'ai une question qui n'a... C'est pas par rapport aux maladies associées, mais c'est par rapport à la maniaco-dépression. Est-ce qu'une personne bipolaire de type 2, est-ce que dans un jour, 10 ans, 20 ans, 30, 40 ou 100 ans, est-ce que c'est possible qu'elle se retrouve telle que j'ai cru l'entendre lors de certaines de vos conférences, tout nu autour de l'Arc de Triomphe, ou alors de risquer de mourir à cause de prise de risque à considérer en roulant 180 sur l'autoroute, enfin sur le sommet dans Paris ou quelque chose comme ça, de se retrouver au lit avec un autre homme parce que alors que la personne est pourtant complètement pudique et complètement fidèle, ou de braquer une banque alors que la personne est complètement normale et complètement raisonnable. Voilà. Alors.
Donc je répète la question, c'est est-ce qu'un trouble bipolaire 2 peut être amené à avoir des comportements excentriques et je dirais que le trouble bipolaire 2, qu'est-ce que c'est? Le trouble bipolaire 2 se caractérise par des états d'excitation qui sont modérés et des états dépressifs le plus souvent qui sont intenses. À la différence du trouble bipolaire de type 1, qui se caractérise par des épisodes d'excitation aiguë, où là tout est possible, c'est-à-dire c'est le vol de la voiture de pompier ou de la voiture de police, c'est le braquage de banque en pleine phase d'excitation, c'est des escroqueries, c'est des nudations, l'exhibitionnisme, des conduites à risque au plan sexuel, et qui est associé ou non, bon, c'est bipolaire de type 1, associé ou non à des épisodes dépressifs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fixité, c'est-à-dire que quand on est bipolaire 2, dans 90% des cas, on reste bipolaire 2. Et quand on est bipolaire 1, on reste bipolaire 1. Bon. Alors, en sachant que sous traitement, le bipolaire 1 peut devenir bipolaire 2, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une amélioration de la symptomatologie d'excitation maniaque, une atténuation de cette symptomatologie, mais la persistance d'oscillations modérées. Mais un bipolaire 2 ne va pas s'exposer. Je dirais qu'il est, il est rarement hors la loi. Parce que son hypomanie, elle reste dans les limites du raisonnable et il n'est pas amené à commettre des excès comme le maniaque bipolaire de type 1 qui, lui, peut faire n'importe quoi. Le risque de passage, il est de 5%. Il est de 5%, alors il est certain que certains médicaments pourraient favoriser ce passage, des toxiques peuvent favoriser ce passage, mais c'est quand même un risque qui est exceptionnel. C'est-à-dire qu'on insiste beaucoup sur cette notion de fixité. Mais le passage est possible. Mais ça représente 5% des cas.
Par rapport à la prise de médicaments, est-ce que la régularité est essentielle ou elle a pas une grosse importance le soir, matin?
Ça dépend de quel médicament, c'est-à-dire que vous avez des médicaments comme les sels de lithium, mieux vaut les prendre le soir parce que les effets indésirables du lithium, qui sont les tremblements, des sensations vertigineuses, des nausées, parfois une somnolence, sont contemporains du pic plasmatique. C'est-à-dire qu'ils sont contemporains de la prise du médicament. Lorsqu'on prend du lithium, le médicament va être absorbé progressivement dans l'organisme et on va avoir une concentration très élevée de lithium très peu de temps après l'absorption du lithium. Bon. Si on prend le lithium le soir, les effets indésirables possibles vont survenir pendant le sommeil et auront moins de conséquences que si c'était pris le matin. En termes d'efficacité et de prévention, parce que la question elle se pose aussi à ce niveau, c'est-à-dire que il n'y a pas de meilleure protection si vous le prenez le soir ou si vous le prenez le matin. avec le Théralyte 250, qui normalement est un médicament qui se prend en plusieurs prises, on peut très bien concevoir une prise unique. Alors, il y a eu des études qui ont tenté d'évaluer si une prise un jour sur deux était aussi efficace qu'une prise quotidienne. Là, ces études sont plus en faveur quand même de la prise quotidienne. Mais en prenant le médicament une fois dans la journée, en sachant que la demi-vie du produit est de 24 heures et que quand même le médicament reste stable pendant ces 24 heures, qu'on le prenne le matin ou le soir, c'est pas problématique en termes d'efficacité. En revanche, ça va conditionner la tolérance. Et c'est vrai que si vous prenez par exemple de la Timil, qui est un médicament plutôt sédatif le matin, vous risquez d'être un peu ensuqué et endormi. Et si vous prenez du Prozac ou d'autres types de médicaments le soir, vous pouvez avoir chez certaines personnes un effet plutôt stimulant. Vous le prenez avant de vous coucher. Oui.
Et je peux suggérer à mon médecin de me donner la prise en une fois.
Jean-Luc ? Madame, demande le micro derrière toi. Merci Jean-Luc.
La semaine dernière, quelqu'un m'a posé la question est-ce que ça voulait dire TBT ? Alors avec Christian Gay, lundi matin, on a trouvé une nouvelle formule. C'est pas troublé bipolaire, c'est très bien portant. Et depuis, on va vachement bien tous les deux, parce que c'est déposé par le Christian Guerre que vous avez là.
S'il vous plaît. Bonjour docteur. Je voudrais savoir, dans le cas de troubles bipolaires, est-ce que l'homéopathie peut faire partie des traitements ou...
Non, là j'ai une réponse radicale. Non. Hein, c'est-à-dire que le lithium à dose homéopathique n'a aucun effet sur les troubles bipolaires, il faut être très clair. Et il n'y a pas de traitement homéopathique du trouble bipolaire. Et si vous avez un médecin, et là je m'engage et je dis quelque chose d'un petit peu violent, si vous avez un médecin homéopathe qui vous dit « je vais traiter votre trouble bipolaire par de l'homéopathie », ce médecin est un criminel parce que on n'a aucune donnée qui permette de dire de telles choses. Et c'est grave compte tenu des conséquences de la maladie, conséquences potentielles de cette maladie.
Par rapport aux antidépresseurs, il y a certains autres médicaments qui font que la patiente grossit énormément et ensuite donc pose des problèmes de comportement, ne pas pouvoir se supporter, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
C'est un autre problème. C'est vrai que la majorité des médicaments psychotropes exposent à des prises de poids. Hein. Donc, et c'est un facteur dépressogène aussi, parce que lorsqu'on prend 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, eh bien, ça entretient la dépression. Et c'est sûr que il faut mettre en place dès que possible des mesures hygiéno-diététiques, hein, le plus tôt possible, et puis peut-être choisir des médicaments qui ne vont pas risquer de faire prendre du poids chez des personnes qui sont prédisposées, en sachant qu'on a à notre disposition aujourd'hui quelques médicaments qui ne font pas prendre de poids, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Ah ben, les médicaments qui ne font pas prendre de poids, il y a le Stablon, il y a le Prozac, il y a le Lamictal, c'est les trois principaux. Le Séropram fait peu prendre de poids, le Zoloft aussi. Voilà, ce sont des médicaments. Alors, il est certain que tous les neuroleptiques font prendre du poids, ça c'est sûr. L'aripiprazole, qui n'est pas encore commercialisé, est un médicament qui, a priori, ne fait pas prendre de poids. Hein. L'Epitomax, qui est un médicament qui avait été essayé comme thymorégulateur, ne fait pas prendre de poids, il fait même maigrir. C'est un effet indésirable de ce produit, mais on a peu de données sur son efficacité comme thymorégulateur. Alors, oui, tout à fait. Hein. Pas encore. Pas encore.
Ouais, s'il vous plaît.
Non, il filme pas.
Pas de soucis. L'anaphramine fait prendre du poids, le lithium fait prendre du poids. Si c'est le seul produit qui est efficace, et ça, c'est vrai qu'on est assez coincé, parce que c'est vrai que l'anaphramine est un médicament de référence. C'est comme le marsilide, hein, chez certaines personnes, vous avez un IMAO, l'imiteur de l'aminoxydase, qui a un effet antidépresseur très très puissant, mais qui a aussi des effets indésirables et qui aussi fait prendre du poids. Et ça, c'est un problème. Je sais, mais là, mais ça, j'en ai parfaitement conscience, c'est une difficulté majeure. Oui, alors la prise de poids via la thyroïde, bon, pour le lithium. Parce que là, il y a dans les explications, c'est sûr que en situation d'hypothyroïdie, il y a une prise de poids importante, en sachant aussi que le lithium est un produit qui peut favoriser des hypothyroïdies.
S'il vous plaît, pour l'homéopathie, je reviens à la première question. Si le médecin prescrit de l'homéopathie en plus du traitement pour régulariser un peu les...
Là j'ai pas d'avis. Non, il n'y a aucun souci. On pose souvent la question, c'est pas un problème. Mais là il faut être très très vigilant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer du théralite, par exemple, par du lithium oligosol. C'est inenvisageable. Et là, il faut être extrêmement prudent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement homéopathique qui permette de contrôler les troubles maniaco-dépressifs. Certainement pas.
Merci.
Excusez-moi, oui, j'arrive. Vous parlez du lamidal.
Attendez le micro.
J'aurais voulu savoir ce que c'est.
On en a parlé déjà.
Excusez-nous, c'est technique.
Oui. Merci. C'est juste pour compléter le monsieur qui demandait par rapport à l'homéopathie pour tout ce qui est bipolaire. Pour ce qui est de la dépression unipolaire, est-ce qu'il peut y avoir des effets bénéfiques de tout ce qui est homéopathie, naturopathie ?
Il faut être très clair parce qu'on entend. Il est certain que lorsqu'on a des pathologies dépressive, caractérisée, récurrente, douloureuse, intense, invalidante, je ne connais pas de traitement homéopathique qui permette de contrôler ces manifestations. Alors, l'homéopathie pourra vous être proposée lorsqu'il y a une anxiété latente, lorsqu'il y a une hyperréactivité, lorsqu'il y a un trac. Bon, là, moi, je ne suis pas compétent en la matière, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en matière de pathologie lourde, quand je parle de pathologie lourde, je fais référence à ces récurrences maniaques et dépressives et à ces dépressions récurrentes. Non, l'homéopathie n'a pas d'effet thérapeutique. Enfin, ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été démontré. Il n'y a aucun médicament qui peut revendiquer une telle indication.
Et une prochaine question, c'est pour les oméga 3, c'est pareil aussi que l'homéopathie, ça marche pas non plus.
Pardon.
Les oméga 3.
Oui.
Ça marche pas non plus.
Pour les oméga 3, pareil, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données. Il y a une étude, je crois, qui circule concernant les oméga 3, mais dans les troubles maniaco-dépressifs, on n'a pas cette notion. C'est-à-dire qu'il faut être très très prudent par rapport à tout ce qui peut être rapporté dans la littérature. Il faut que ce soit étayé, il faut qu'il y ait un niveau de preuve qui soit élevé. Lorsqu'on parle des médicaments, lorsque des médicaments ont obtenu un label, lorsqu'ils sont indiqués officiellement dans des troubles bipolaires, dans d'autres troubles, c'est-à-dire qu'ils ont fait la preuve de leur efficacité, ils ont été étudiés avec des contrôles, avec d'autres antidépresseurs ou d'autres antipsychotiques et contre placebo, et donc il y a eu une action tout à fait significative.
Merci, j'aurais voulu vous poser une autre question. J'aurais voulu avoir un ordre de grandeur par rapport en fait au tabac, parce qu'on a parlé du tabac par rapport aux antidépresseurs. J'aurais voulu savoir s'il y a un antidépresseur style Paroxate ou Prozac ou Sérupram, ça équivalait par exemple à combien de cigarettes, 10, 20 ou... Par exemple, si on prenait un antidépresseur, ça vaut combien de cigarettes par jour, par exemple ?
Là, je ne peux pas vous répondre.
À peu près, ça vaut un paquet de cigarettes ou ça vaut deux cigarettes ?
Je ne peux pas vous répondre, mais je pense que l'effet...
Non, avec le vin aussi, par exemple.
L'effet psychotrope des cigarettes, il est difficilement quantifiable parce que il est fonction aussi de la personnalité du sujet, il est fonction de la pathologie sous-jacente. Mais, disons, je ne sais pas, moi, qu'un paquet de cigarettes pourra peut-être correspondre à un demi comprimé. Mais je vous dis ça comme ça, de manière très grossière, hein, sans que ça repose sur des données scientifiques établies. Hein. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de distance. Mais il y a un effet, psychotrope qui est indiscutable. Et les patients le ressentent très bien. Et les patients ressentent cette propriété psychotrope du tabac.
C'est à moi ? Bonsoir. Je suis là. C'est à moi ? Bon, bonsoir. Je tremble un peu sur les placotes, hein, excusez-moi. Alors, je voudrais savoir ce que vous pensez sur un article sur le quotidien du médecin, FMC, du 9-12-02. Le titre, c'est « Sérotonine, une régulation par la lumière du matin ». Excusez-moi, je tremble un peu. Une équipe australienne publie cette semaine dans le Lancet une étude qui met en évidence l'effet vous avez compris, sur la vitesse, hein, pas sur la sérotonine, sur la vitesse de renouvellement de la sérotonine dans le cerveau. J'explique. Plus le degré d'ensoleillement est important et plus la production de sérotonine s'élève. La lumière du jour pourrait donc influencer notre humeur via la sérotonine. Ouf, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Attendez, je complète. Est-ce que c'est plus dépressif d'aller à la montagne ou à la mer, docteur ?
Alors, les données, hein, il faudrait poser la question à des spécialistes du sommeil parce qu'ils travaillent beaucoup sur la sérotonine et la mélatonine. Parce que l'ensoleillement, il est aussi, je dirais, corrélé à la sécrétion de mélatonine qui joue un rôle important. Moi, j'ai pas cette notion. Alors, ces réunions, elles deviennent de plus en plus scientifiques, savantes, et alors on arrive avec des cols. Aujourd'hui, je suis collé. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. C'est-à-dire que vous m'apprenez quelque chose, savoir que l'ensoleillement a une action sur la sérotonine. Ce que je sais, c'est que la sérotonine est sous la dépendance à un certain nombre de facteurs, des facteurs qui sont alimentaires, des facteurs qui sont liés au stress, des facteurs bien sûr liés au sommeil. La question, c'est de savoir comment cet ensoleillement va agir. Est-ce que ça va modifier l'activité des récepteurs? Est-ce que ça va augmenter véritablement la quantité de sérotonine dans le cerveau? Le problème, c'est de savoir chez qui ça a été étudié, parce que on n'a pas fait de prélèvements cérébraux chez des humains. Donc manifestement, ça a été étudié chez la souris. Et lorsqu'on fait des dosages périphériques de sérotonine, on dose le 5-HIA, et bien, ce dosage, il ne reflète pas du tout de ce qui se passe au niveau central. Donc là, ça, c'est des interrogations qu'on peut se poser. Mais bon, moi, j'avais pas du tout eu connaissance de cette publication qui est parue dans une revue internationale, Nature, c'est ça ?
Lancet.
Lancet, oui, qui est une revue référence, hein, qui est une très grande revue. Hein.
Vous avez parlé du lamictal et je ne peux pas assister à toutes vos conférences, donc je voudrais vous demander dans quel cas on m'a mis sous lamictal et la psychiatre m'a lâché dans la nature, ça fait 6 mois de ça. Je n'ai pas vu de psychiatre depuis 3 mois, 3 mois et demi. J'ai un rendez-vous donc dans un mois et demi maintenant. Alors, dans quel but prescrit-on le lamictal ?
Alors, le lamictal fait partie, et puis on arrête après, hein. Le lamictal fait partie des thymorégulateurs qui agissent par le bas. C'est-à-dire que le lamictal a un effet à la fois curatif, mais surtout préventif, sur les récidives dépressives chez des patients qui sont bipolaires. Ce qu'on sait de ce médicament, c'est que c'est le meilleur protecteur contre des récidives dépressives chez les bipolaires, j'entends. Hein? Chez les unipolaires, ça reste quand même des antidépresseurs au long cours. Donc, il y a eu des études qui ont été effectuées depuis une dizaine d'années, et aux États-Unis, le Lamictal a obtenu, c'est le deuxième produit à avoir obtenu une indication dans la prévention des récidives. Alors là, c'est assez particulier parce qu'aux États-Unis, il a obtenu aussi son indication dans la prévention des récidives maniaques. C'est maniaque et dépressive des troubles bipolaires. Le premier est en lithium. Il n'y a pas d'autres médicaments aux États-Unis qui ont aujourd'hui cette indication. Il y aura probablement du Zyprexa bientôt, mais actuellement, il n'y a aucun produit. Donc, tout ça pour dire que c'est un excellent produit. La règle fondamentale, c'est d'augmenter très progressivement le traitement, de commencer par 27 mg pendant 15 jours, puis 50 mg les 15 jours suivants, et ensuite d'augmenter en fonction de l'état du sujet, et de passer à 100 mg, 150, 200 mg, on peut éventuellement aller jusqu'à 400 mg, mais la dose moyenne efficace est de 200 mg. C'est un médicament qui présente un avantage considérable par rapport aux autres médicaments thymorégulateurs. Ses premiers avantages, c'est qu'il ne fait pas grossir. Ça, c'est un point qui est très important. Deuxième avantage, c'est que c'est un médicament qui n'entraîne pas d'altération des fonctions intellectuelles, c'est-à-dire que les gens qui sont sous l'amygdale se concentrent normalement, n'ont pas de difficulté de concentration, peuvent fixer leur attention normalement. Donc ça, c'est un point aussi qui est très important. Et troisième point, c'est que chez la femme enceinte, ce produit n'entraînerait pas de malformation chez le fœtus. Et ça aussi, c'est un élément important. Donc je dirais qu'actuellement, le Lamictal se positionne comme un produit de référence. Dans certaines classifications, en particulier celle de Post, c'est le produit qui a le même rapport d'efficacité que l'électrochoc. Et en termes d'efficacité, à la fois comme traitement curatif et comme traitement préventif des récidives. Alors, c'est peut-être pas un très bon antidépresseur, parce que de toute façon, on est obligé d'augmenter à dose progressive et que son effet antidépresseur n'a pas été clairement démontré. En revanche, comme traitement préventif des dépressions bipolaires, il est remarquable.
Et on le donne seul, docteur ?
On peut le donner seul, on peut le donner en association avec du lithium. On ne doit pas l'associer à des médicaments comme le Dépakote ou le Dépamide, parce que au début du traitement en particulier, parce que ça peut provoquer des poussées de concentration de l'amygdale et favoriser des troubles cutanés. Parce que le problème du l'amygdale, c'est que chez certaines personnes, il peut y avoir des troubles cutanés. C'est pour ça qu'on augmente très très progressivement les doses au début pour éviter ces troubles cutanés.
Docteur, un tout petit complément d'information par rapport aux cigarettes. Pour ceux qui seraient tentés de fumer pour remplacer les médicaments, je crois avoir lu dans les brochures qui sont distribuées en ce moment pendant les campagnes anti-tabac que si effectivement la cigarette a au moment où l'on fume et pendant les quelques minutes qui suivent un petit effet sédatif, il y a un effet anxieux qui arrive quelques minutes après et qui donne envie de fumer la cigarette qui va faire l'effet.
Et ça, c'est l'effet pernicieux, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut à une cigarette pour être complètement dépendant et être accroché et contrôlé et faire disparaître ces manifestations par un phénomène d'auto-induction en quelque sorte. Voilà, bah écoutez, merci de votre attention.
Je ne peux pas, moi j'ai fini, mais maintenant.